Il est 8h.
Il m'a demandé si j'avais des cours invités. Je lui ai dit, écoutez, je vous avoue que non. C'est juste que je travaille dans un lieu qui accueille du public. Donc j'ai tenté. Il m'a dit, vous avez bien fait.
Tenter sa chance aux portes des centres de vaccination, même quand on n'est pas tout à fait dans les critères pour recevoir une injection. Une pratique relativement répandue et tolérée par les médecins entre pragmatisme et nécessité de ne pas gaspiller les doses. Dans ce journal, les Français trop peu préparés au risque d'accident nucléaire. Europe 1 vous dévoile un rapport officiel inquiétant. Et puis Bill Gates et son épouse Melinda divorcent. Leurs 3 enfants sont majeurs, mais... qui va garder les 120 milliards, nous irons, aux États-Unis. Juste après le journal, on vous retrouve avec votre invitée, Sonia Mabrouk. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Rythme et élargissement de la vaccination, levée progressive des restrictions et promesse d'un été presque normal. Mon invité, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Rendez-vous à 8h15.
À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Il y a l'esprit et il y a la lettre. Les règles à la lettre pour avoir droit au vaccin sont aujourd'hui d'avoir plus de 55 ans ou bien plus de 18 ans quand on a des comorbidités. Mais l'esprit de cette campagne, c'est bien de protéger toute une population et de vacciner, tôt ou tard, tous les volontaires pour relancer le pays.
Alors les vaccinateurs doivent juger de la bonne foi des personnes qui se présentent, comme celle rencontrée par Jean-Gabriel Bourgeois dans plusieurs centres d'injection des Yvelines.
J'ai mes rondeurs qui m'aident un petit peu, voilà.
Surpoids, essoufflement, ce sont des signes extérieurs de comorbidité qui permettent l'accès à la vaccination. Et pour les pathologies moins visibles, la grande majorité des patients respectent les règles.
On a un de nos enfants qui est immunodéprimé, donc du coup, on a le certificat médical.
Hypertension, j'avais l'ordonnance, mais on ne m'a pas demandé. Ouais.
Depuis le week-end dernier, même plus besoin d'apporter un justificatif, c'est le médecin qui apprécie. Au centre de vaccination de Versailles, Romain, 33 ans, a tenté sa chance.
Là, il m'a demandé si j'avais des comorbidités. Je lui ai dit, écoutez, je vous avoue que non. C'est juste que je travaille dans un lieu qui accueille du public, donc j'ai tenté. Il m'a dit, vous avez bien fait.
Mais les fraudeurs à la vaccination restent marginaux, tempèrent les médecins, le docteur Marie-France Jourdan.
On a un a priori de confiance, mais la façon dont les personnes nous répondent à la façon que nous avons de les interroger, nous voyons bien si elles connaissent leur pathologie, si elles savent la décrire.
À 10 km de là, au méga-centre de Saint-Quentin en Yvelines, Nesrine Ramouni, médecin coordonnateur, résume, la tolérance dépend surtout des stocks de vaccins.
On a quand même des recommandations, on essaie de les respecter au maximum. Si jamais on a des doses à utiliser, on ouvre les critères d'éligibilité, ce qui est normal.
Une souplesse pour ne pas gaspiller de doses.
Voilà pour ce reportage signé Jean-Gabriel Bourgeois. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Faut-il acter cette forme de tolérance ou de souplesse ou en fait, faut-il faire plus simple en élargissant plus vite la vaccination puisque 5 millions de nouvelles doses sont livrées à la France cette semaine. Les réponses du ministre de la Santé, Olivier Véran, c'est dans moins de 10 minutes, c'est juste après ce journal.
Oui, avec un point sur la vaccination, alors qu'on apprend ce matin qu'aux États-Unis, les enfants de 12 ans et plus devraient pouvoir recevoir le vaccin de Pfizer dès la semaine prochaine.
8h03 sur Europe 1. Il faut imaginer la scène qui va avoir lieu deux fois aujourd'hui au siège des Républicains à Paris.
Comité stratégique puis commission d'investiture. Renaud Muselier sera présent dans les deux cas. Lui qui risque des sanctions après son rapprochement avec La République En Marche dans sa région, PACA. En attendant, Jean Rottner, le président sortant de la région Grand Est, officialise ce matin sa candidature, expliquant au journal L'Alsace « Je suis républicain, je reste républicain ». Et pour Xavier Bertrand, c'est hier qu'il lançait à Maubeuge sa campagne pour la présidence des Hauts-de-France.
Pour Europe 1, Lionel Gougelot a suivi un candidat très ferme sur toute idée d'alliance.
Pas d'alliance au premier tour, pas d'alliance au deuxième tour. Le respect des électeurs, le respect de ses valeurs, c'est la clarté.
Le Nord ne copiera pas le Sud et pour le président sortant des Hauts-de-France, pas question d'un arrangement avec La République En Marche.
La tambouille politicienne, mais je laisse ça au président de la République.
Au contraire, cela permet à Xavier Bertrand, pour le lancement de sa campagne, de marteler ses engagements de clarté et de fidélité à ses valeurs.
Ma liste et mon projet seront exactement les mêmes au premier et au deuxième tour. Ne jamais trahir ses valeurs, respecter ses électeurs... c'est quelque chose d'essentiel en politique. Si certains font des choix différents, notamment en PACA, je le dis, c'est une tragique erreur qui ne peut conduire qu'à la défaite.
Lui se dit convaincu d'être le seul à pouvoir battre le Rassemblement National et ce rejet de l'alliance avec La République En Marche ne semble pas gêner les quelques élus macro-compatibles de sa liste, comme le maire centriste de Saint-Omer, François de Coster.
Je me sens totalement à l'aise dans la majorité présidentielle, mais nous sommes ici sur une élection régionale. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir ce projet et non pas de faire des additions ou de faire des combines. Et je crois que cette méthode-là, eh bien, nous la partageons totalement.
Parce que dans les Hauts-de-France, dit un de ses élus, si l'on peut être macro-compatible, on est surtout pro-Bertrand. À Maubeuge, Lionel Gougelot, Europe 1.
À la une aussi ce matin, ce paradoxe plutôt inquiétant. La France est le pays le plus nucléarisé au monde, mais ses habitants ne sont pas bien préparés au risque d'accident.
Oui, l'ANCLIC est un organisme chargé d'informer la population sur les activités nucléaires, publie ce rapport dont on vous parle ce matin sur Europe 1, jugeant urgent de remettre à plat la prévention partout en France. Maude Descamps.
Si vous habitez dans un rayon de 20 km autour d'une centrale nucléaire, vous auriez dû recevoir l'an dernier un courrier pour aller retirer en pharmacie des pastilles d'iode. Pourtant, 75% de la population concernée n'a jamais rien eu dans sa boîte aux lettres. Même chose pour les exercices d'évacuation. C'est inacceptable pour le président de l'ANCLI, Jean-Claude Lalonde.
Il y a une non-préparation des Français à une crise nucléaire majeure. On ne comprend pas pourquoi, à l'image de ce qu'on fait depuis 30 ans sur la sécurité routière en France, on ne mène pas des campagnes nationales, pas simplement limitées autour des 20 km, parce que chaque Français habite à moins de 200 km d'une installation nucléaire.
L'ANCLI demande que les élus locaux soient associés au plan d'urgence nucléaire, comme la loi le précise. Une défaillance qu'avait pointé du doigt Barbara Pompili en 2018. La ministre de la Transition écologique, alors députée, dirigeait une commission d'enquête sur la sûreté nucléaire. Contactée par Europe 1, l'entourage de la ministre assure qu'elle partage toujours cette analyse. Pour autant, le sujet ne figure pas à son agenda pour le moment.
Maude Descamps, spécialiste des questions énergétiques à Europe 1. Une image effrayante dans l'actualité, c'est à Mexico, il y a quelques heures, l'effondrement d'un pont ferroviaire au passage d'une rame de métro. Celle-ci s'écrase, disloquée sur une route. On parle de 13 morts et de plus de 80 blessés.
Le Mexique, dont le président, quelques heures plus tôt, faisait un geste historique en quelques mots.
Oui, des excuses officielles présentées au peuple indigène maya pour les torts commis à son encontre depuis 500 ans.
Por un imperativo
par impératif d'éthique gouvernementale, mais aussi par conviction, nous présentons les plus sincères excuses au peuple maya pour les terribles abus commis lors de la conquête, pendant les trois siècles de domination coloniale et pendant les deux siècles du Mexique indépendant.
Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador à Quintana Roo, dans le sud-est du pays, hier. Étrangement, ce n'est pas par une présentation PowerPoint qu'ils ont annoncé la nouvelle, mais dans un tweet. Bill Gates et Melinda French, de son nom de jeune fille, divorcent après 27 ans de mariage. Alors avec une fortune à 12 chiffres, cette séparation pose aussi des questions d'argent.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
On vous retrouve à New York pour Europe 1. Les raisons de ce divorce ont été données en une seule phrase.
Oui, nous pensons ne plus pouvoir avancer ensemble en tant que couple, c'est ce que dit ce communiqué, mais tout n'est pas fini pour autant, car les Gates précisent bien qu'ils vont continuer à travailler ensemble au sein de leur fondation, l'une des plus grandes et des plus puissantes au monde, plus de 50 milliards de dollars dépensés en 20 ans, notamment dans le secteur de la santé. La fondation Bill et Melinda Gates s'est tout particulièrement illustrée depuis un an en s'engageant dans la lutte contre la pandémie pour le développement et l'accès aux vaccins. Depuis 2014 et son départ de Microsoft, Bill Gates se consacre d'ailleurs entièrement à cette fondation qu'il pilote avec sa femme depuis Seattle sur la côte ouest. Il est toujours le quatrième homme le plus riche de la planète avec quasiment 130 milliards de dollars de patrimoine, mais va-t-il devoir se séparer d'une partie de cette fortune ? On se rappelle d'un précédent retentissant, le divorce du couple Bezos il y a 2 ans. Le fondateur d'Amazon et sa femme étaient parvenus à un accord. Mackenzie Scott avait alors récupéré 36 milliards de dollars. Pour le moment, le couple Gates n'a pas fait de commentaires et demande de l'espace et de l'intimité pour s'adapter à cette nouvelle vie.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Eux voudraient continuer leur lune de miel avec la Ligue des Champions, les footballeurs du PSG qui doivent gagner face à Manchester City en marquant au moins 2 buts s'ils veulent une place en finale.
Bonjour Julien Froment.
Bonjour.
Grande soirée foot ce soir sur Europe 1, c'est vous qui serez aux commentaires de ce match. Défi posé aux Parisiens. Dites-nous d'abord, c'est Kylian Mbappé est attendu ou pas finalement sur le terrain ?
Eh bien, il est attendu, mais peut-être sur le banc de touche. Dans un rôle de joker, Kylian Mbappé, touché au mollet, s'est entraîné hier à part des courses à moyenne intensité pour se tester. Une décision sera prise dans la journée. Si Mbappé est trop court, eh bien, il pourrait être remplacé par l'Argentin Mauro Icardi.
Réponse donc dans quelques heures. Alors, ces derniers jours du côté du PSG, on surjoue la mobilisation générale.
Oui, parce que le défi est immense. Vous l'avez dit, le Paris Saint-Germain doit gagner par 2 buts d'écart. Seulement 7% des équipes battues 2-1 à l'aller y sont parvenues. Résultat, on appelle à la mobilisation générale et c'est la star brésilienne Neymar sur PSG TV qui a adressé peut-être le message le plus fort.
Je pense que chaque Parisien doit croire en nous. Je suis en première ligne et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l'équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener la victoire cette fois, quoi qu'il arrive. même s'il faut mourir sur le terrain.
Et que c'est déjà mort.
Voilà, Paris qui s'attend à souffrir, mais qui a un plan clair en tête, être agressif sur l'adversaire et clinique, efficace devant le but. Voilà les deux conditions, eh bien, pour espérer décrocher une deuxième finale de Ligue des Champions d'affilée.
Merci Julien Froment, vous dites 7%, mais que valent les statistiques face à la glorieuse incertitude du sport? On le saura. Rendez-vous ce soir dès 20h avec vous et avec Cyril de la Morinerie pour cette soirée spéciale sur Europe 1. Le match en direct et en intégralité.
Ah, je voyais que Lyon l'a fait il y a 3 ans, gagner à Manchester en 2-1. Ça impliquerait d'aller aux prolongations. 1-2-1.
Exactement.
Déjà ça, après ça recommence. On suivra ça ce soir, merci à vous deux. Julien Froment, François Geffrier pour le journal de 8h. 8h10.
Europe 1, Sébastien Krebs.
À suivre, Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran. C'est dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Matin,
le 7-9.
Sébastien Krebs.
8h13, l'interview politique. Sonia Mabrouk, vous recevez le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran.
Bienvenue à vous et bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
Depuis samedi, la vaccination est donc ouverte à tous les plus de 18 ans avec comorbidité, sans ordonnance ni certificat médical. En réalité, monsieur le ministre, la vaccination est désormais ouverte à tous.
On a fait le choix du bon sens. J'aurais pu demander à 4 millions de Français, adultes, jeunes, atteints de maladies chroniques, d'aller chez leur médecin, embouteiller les cabinets médicaux en pleine vague épidémique pour leur demander une attestation selon laquelle ils auraient une maladie. Là, je fais confiance à la fois aux Français, et on a eu raison de leur faire confiance depuis plus d'un an, qu'il y aura peut-être des stratégies de contournement, mais ce sera à la marge, et en même temps aux équipes médicales dans les centres qui sont capables de faire le point avec les gens qui viennent se faire vacciner. On veut que ce soit simple. L'urgence, c'est de vacciner les plus fragiles.
Vous dites bon sens et pragmatisme, ça veut dire que les centres de vaccination, et c'est bien normal, ne vont pas mener l'enquête avant de vacciner.
Mais ça veut dire qu'il y a des équipes médicales qui ont un entretien médical avec le patient qui vient, la personne qui vient se faire vacciner et qui fait le point sur sa maladie, ne serait-ce que pour vérifier que la maladie dont il souffre est compatible avec la vaccination. Et encore une fois, le choix du pragmatisme, c'est ce qui nous permet de vacciner vite et fort. Nous avons multiplié par 4 le nombre de rendez-vous pris dans les centres en l'espace de 2 semaines.
Mais alors pourquoi ne pas dire ce matin clairement que c'est ouvert à tous ?
Parce que nous priorisons toujours les gens qui sont les plus à risque.
N'est
de
pas
faire
le cas
des
dans les centres de vaccination ?
Nous avons fait le choix d'abord des populations les plus âgées, c'était le risque majeur. Ensuite, comme l'a dit le président de la République, l'autre facteur de risque, le principal, c'est l'obésité. Et c'est pour ça que le président de la République a appelé les personnes qui souffrent d'obésité à se faire vacciner. Et nous avons ajouté, dans la continuité, un certain nombre de Français qui souffrent de maladies chroniques qui les exposent au risque de formes graves. La patience des Français, elle est extraordinaire depuis le début. Et face aux mesures de freinage du virus et face aux règles qui encadrent la vaccination. Parce que ce que nous voulons, c'est d'éviter des hospitalisations. C'est le seul moyen de retrouver une vie la plus normale possible.
Une forme d'hypocrisie, une forme de rigidité. Monsieur le ministre, aujourd'hui, un jeune adulte qui arrive à se faire vacciner, même s'il n'a pas de comorbidité, mais qui veut se protéger, vous diriez que c'est un passe-droit ou qu'il a du bon sens et que c'est un bon citoyen ?
Mais non, je comprends parfaitement et je me réjouis d'ailleurs que les Français soient très nombreux à vouloir se faire vacciner. Et d'ailleurs, ils le pourront très prochainement. Le président a annoncé qu'au 15 juin, il n'y aurait plus de limite d'âge pour se faire vacciner. Dans l'intervalle, encore une fois, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup moins de morts que ce que nous aurions eu avec la même vague épidémique il y a quelques mois, c'est parce que nous avons vacciné les plus fragiles. Si les hôpitaux qui sont soumis à une pression extraordinaire et que les Français savent soutenir par leurs applaudissements, par leurs encouragements et par leur comportement citoyen, si les hôpitaux n'ont pas explosé pendant la vague épidémique, c'est aussi parce que nous avons pu protéger les plus fragiles d'abord.
Mais vous savez que ce n'est pas ce qui est en train de se passer dans les centres de vaccination. En ce moment, ceux qui vont travailler là en terrasse dès le 19 mai, ceux, les artistes par exemple, qui vont d'ores et déjà commencer à répéter, pourquoi ne pas les protéger tout de suite ? Pourquoi attendre encore ?
Mais la question de l'attente n'est pas de vouloir...
Si vous avez les doses.
On n'est pas dans le supplice chinois, on est aujourd'hui dans l'utilisation de tous les vaccins dont nous disposons, au jour le jour, à flux tendu, pour pouvoir protéger en priorité les gens qui sont à risque de formes graves. Et ensuite, le temps viendra pour toute la population de se faire vacciner, je vous le promets.
Il y a des villes comme Bastia, Nice, qui ont déjà ouvert les vaccins à tous les adultes pour un retour à la vie normale. Ne devriez-vous pas les féliciter pour leur souplesse et leur réactivité ce matin ?
Mais je me félicite que certains territoires aient eu beaucoup plus de vaccins que d'autres territoires, parce que c'était des territoires qui ont fait face à des vagues épidémiques plus précoces qu'ailleurs, et que nous avons fait le choix de protéger les populations là où l'épidémie repartait, au moment où elle était très territoriale. Aujourd'hui, nous sommes dans une vague épidémique qui est nationale, qui décline, et c'est tant mieux. Et nous continuons cette stratégie. Encore un peu de patience.
Mais j'essaie de comprendre ce matin, monsieur le ministre, ça veut dire que le problème est encore les doses. Parce que s'il y a suffisamment de doses, pourquoi retarder encore ?
Mais je peux vous confirmer que si nous avions 50 millions de vaccins qui arrivaient aujourd'hui dans les frigos, dans 10 jours, nous n'aurions plus de vaccins et les Français seraient tous protégés. Mais rendez-vous compte, encore une fois, de l'extraordinaire exploit scientifique, industriel. L'Europe est le continent qui produit le plus et exporte le plus de vaccins au monde.
Certes, mais s'il y a suffisamment de doses pour cet afflux de personnes nouvelles, vous n'allez quand même pas retarder le calendrier si vous avez encore une fois ces doses.
Ah mais nous ne retardons absolument pas le calendrier. Nous J'ai ouvert la vaccination à 4,5 millions de Français supplémentaires, sachant que nous donnons 2,5 millions de rendez-vous de primo-injection par semaine. Donc ça veut dire que sur les deux prochaines semaines, nous avons de quoi vacciner les personnes qui ont été appelées à se faire vacciner.
Il reste actuellement précisément 1 million de doses d'AstraZeneca écoulées. Nous en attendons presque 2 millions cette semaine. Est-ce que ces millions de doses vont trouver volontaires malgré la défiance par rapport à ce vaccin ?
Elles le trouvent au quotidien. Le meilleur argument, Sonia Mabrouk, c'est pas que le ministre appelle les Français à se faire vacciner avec Astra. C'est que les médecins libéraux, les pharmaciens d'officine, les infirmières à domicile ont commandé des centaines de milliers de doses de vaccins AstraZeneca. Pourquoi ? Pour protéger leurs patients. C'est le cœur de leur métier de protéger leurs patients, notamment les plus fragiles.
Mais le ratio d'utilisation de ce vaccin est bien inférieur aux autres. C'est la réalité.
Il est inférieur, même s'il reste supérieur à 70 à 75% d'utilisation des doses qui ont été reçues.
Vous attendez cette semaine, Monsieur le Ministre, l'avis de la Haute Autorité de Santé afin de permettre aux personnes qui souhaitent bien sûr se faire vacciner avec l'AstraZeneca, quel que soit leur âge, de le faire en signant une décharge. Mais si vous répétez ce matin qu'il est efficace, pourquoi une décharge ?
La question n'est pas l'efficacité, la question est la tolérance et le risque d'effets indésirables qui peut apparaître notamment chez des gens qui sont plus jeunes. C'est pourquoi nous avions une alerte des autorités européennes et des alertes des autorités sanitaires françaises. Certains pays ont fait d'autres choix. Certains pays ont suspendu, d'autres pays très peu, très peu. La plupart continuent la vaccination à AstraZeneca, ils ont raison. Certains pays comme l'Espagne arrivent à avoir un taux d'utilisation de l'AstraZeneca supérieur à 90%. Supérieur à 90%. Nous ne sommes pas foncièrement différents des Espagnols. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc c'est le choix de la confiance. Et ensuite, vous avez d'autres pays comme l'Allemagne qui font signer un consentement à leurs patients en leur disant « si vous êtes d'accord pour vous faire vacciner, allons-y, on n'a pas de raison de vous le refuser ». Moi, j'ai saisi l'ensemble des autorités sanitaires qui devront me rendre un avis sur cette question et ensuite nous arbitrerons.
Oui, mais vous gérez quand même le risque judiciaire avec cette décharge.
Moi, je ne gère pas un risque judiciaire. Moi, ministre en charge de la santé et de la gestion de la crise sanitaire, je gère une épidémie qui a mis la France et le monde à l'arrêt pendant des mois, qui a fait d'innombrables victimes, qui a rempli nos hôpitaux. Mon seul objectif, c'est de faire en sorte que ça s'arrête.
Alors pourquoi ne pas dire ce matin clairement que l'AstraZeneca, au-delà de l'efficacité, est aussi un vaccin sûr et pas de seconde zone ?
Le vaccin AstraZeneca est un vaccin efficace, sûr, chez les personnes chez qui il est recommandé de l'utiliser, parce que, au-delà de cela, chez certaines catégories de population, notamment des plus jeunes, les autorités sanitaires nous disent on a besoin d'un tout petit peu de temps. S'ils nous disent on peut y aller, c'est bon, on y va, moi je serai le plus heureux des ministres.
Oui, mais vous vous rendez compte, monsieur le ministre, ce matin, un auditeur qui nous écoute, et vous allez lui dire donc qu'il va prochainement signer une décharge s'il veut se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Est-ce le meilleur moyen d'insuffler cette confiance dont vous parlez depuis des mois ?
On va remettre un petit peu d'ordre. Pour tout Français âgé de 55 ans et plus, toutes les autorités sanitaires nous disent qu'ils peuvent et qu'ils doivent, parce que c'est dans leur intérêt, se faire vacciner avec n'importe lequel des vaccins existants, et notamment le vaccin AstraZeneca. La question qui se pose, c'est est-ce que pour des gens qui sont plus jeunes, chez qui on a pu identifier à travers le monde quelques dizaines de cas de ce qu'on appelle des thromboses veineuses, est-ce que chez ces personnes-là, on interdit le recours au vaccin ou est-ce qu'on l'autorise en informant les gens ? C'est ça la question dont on est en train de parler. Mais pour la cible vaccinale qui est actuellement invitée à se faire vacciner en Astra, il n'y a pas de sujet.
Alors, est-ce que vous avez le même pragmatisme avec un autre vaccin, puisqu'on a appris que le Danemark, qui a abandonné l'AstraZeneca, vient d'annoncer le retrait aussi du vaccin Johnson & Johnson, dont il a commandé 8 millions de doses quand même, affirmant, et je cite, que les avantages ne l'emportent pas sur les risques d'effets indésirables. Est-ce que c'est de nature à vous faire reconsidérer l'efficacité et puis la protection de ce vaccin Johnson & Johnson ?
Je ne partage pas les conclusions des Danois, et c'est pas le ministre qui vous le dit, ce sont les autorités sanitaires, les agences européennes, américaines, nationales, qui nous disent que le vaccin Johnson & Johnson en une seule injection, vous protège avec une très bonne efficacité.
Donc il n'y aura pas de changement de pied sur ce vaccin ?
Il n'y a rien qui justifie qu'on change de pied sur ce vaccin.
Pas dans les prochains jours ni les prochaines semaines.
Je vous dis qu'en l'état des connaissances scientifiques, et nous vaccinons beaucoup avec du vaccin Janssen à travers le monde, il n'y a rien qui justifie qu'on change cela.
Les États-Unis ont fait un tour du monde, sont sur le point d'autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech à partir de l'âge de 12 ans, monsieur le ministre, pour limiter la propagation, notamment à l'école. Pourquoi ne pas dire clairement également ce matin que les enfants, peut-être les adolescents, seront les prochains vaccinés ?
Mais je dis clairement que c'est une question qui est sur la table, j'ai déjà eu l'occasion de le dire.
C'est pas une grande clarté que ce soit sur la table.
Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui on vaccine les gens qui sont âgés de 60 ans et plus, donc on est assez loin des enfants de 12 ans, Donc il n'y a pas d'urgence. Et ce temps qui nous permet de vacciner les gens plus fragiles et les adultes, c'est un temps que nous mettons à profit pour continuer d'avoir des données scientifiques sur l'efficacité et la sûreté du vaccin chez les enfants. Donc on a le temps de vous répondre à cette question.
Alors le temps, ce sont aussi les échéances. Tout le monde s'organise pour les étapes du déconfinement. Prochaine étape importante le 19 mai, la maîtrise de l'épidémie, elle se poursuit. Est-ce qu'elle s'accélère, Olivier Véran ?
Elle a tendance à s'accélérer discrètement. On est aux alentours d'une baisse de 20%, peut-être un petit peu plus de 20%, d'une semaine sur l'autre du nombre de nouveaux cas. Donc on devrait bientôt franchir la barre des 20 000 cas par jour, ce qui reste un niveau élevé de contamination. Donc les Français qui nous écoutent ne doivent pas considérer qu'ils sont hors de danger et que l'épidémie est terminée.
Pourquoi dites-vous cela ? Il y a des signes qui semblent vous inquiéter de relâchement ?
Non, mais les causes produisant les mêmes conséquences, on sait très bien que si on devait relâcher trop vite, par rapport au calendrier de déconfinement notamment, qui est un bon calendrier de déconfinement, qui va à un rythme progressif et qui tient compte de la dynamique épidémique et qui nous permettra de réussir et de répondre aux objectifs pour les Français, de leur redonner de la vie dans les meilleurs délais.
C'est intéressant ce que vous dites, les mêmes effets produisant les mêmes conséquences, mais les mêmes chiffres ne produisent pas les mêmes conséquences, puisque vous allez rouvrir sur la base de chiffres sur lesquels vous avez fermé il y a quelques mois.
Non, ce qui est important,
factuellement,
ça...
Factuellement, mais
ce qui compte, ce n'est pas le niveau de contamination, ce qui compte, c'est
maintenant,
la dynamique épidémique.
Ouais.
Si vous êtes à 20 000 cas par jour, et que vous êtes à plus 20% d'une semaine sur l'autre, vous savez que vous êtes parti, pardon pour l'expression, vous êtes parti pour la gloire, et que si vous ne faites rien, le virus ne va pas s'arrêter de lui-même. Lorsque vous êtes dans une dynamique de réduction du nombre de cas, à moins 20% par semaine, vous savez que, en l'état actuel des choses, le virus va continuer à décliner. Et nous savons aussi que dans 3 semaines, le nombre de réanimations sera plus faible que ce qu'il est aujourd'hui, puisque nous avons 3 semaines de recul. Ce qui veut dire que la charge sanitaire va pouvoir se réduire. Et donc, si vous voulez, nous sommes avec 2 conditions nouvelles par rapport auparavant. C'est 1, la vaccination massive des publics les plus vulnérables, qui protège les gens des risques d'hospitalisation. Et 2, notre capacité bientôt à reprendre les soins programmés, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte de chance pour les Français. C'est 2 conditions, la vaccination de masse des plus fragiles et la reprise des soins programmés, plus la dynamique baissière de l'épidémie, nous permet d'envisager cette réouverture progressive.
C'est pour quand la reprise des soins programmés ? C'est très important pour ceux qui nous écoutent.
Tous les soins programmés n'ont pas été arrêtés. Il y a des territoires dans lesquels nous sommes à 30% de déprogrammation, d'autres dans lesquels nous sommes à 80%. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de malades en réanimation pour pouvoir reprendre les soins de la bonne manière et en sécurité. Mais nous savons que dans les semaines qui viennent, le nombre de réas va baisser. Et donc, à mesure que les places se libéreront, nous pourrons à nouveau réopérer des malades. C'est très important pour les Français qui n'ont pas le Covid et qui attendent aussi de leur système de soins, qui les protège.
Olivier Véran, à partir de quel moment, puisque nous sommes dans les calendriers et les dates, on va retirer le masque alors que de plus en plus de spécialistes, et vous serez d'accord, s'accordent à dire qu'il n'y a quasiment aucun risque à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin un objectif de contrôle de l'épidémie à partir duquel vous diriez c'est fini le masque à l'extérieur ?
Ce que nous savons assurément, c'est que la vaccination protège des formes graves. Ce que nous pensons très fortement, c'est pas tout à fait pareil, mais nous pensons très fortement, c'est que la vaccination protège bien du risque de contamination et donc de diffusion du virus et donc du risque d'épidémie. Ainsi, ça veut dire que quand vous avez suffisamment de Français qui seraient vaccinés, nous pourrions alors baisser la garde,
oui,
entre guillemets. Ce que je peux vous promettre, Sonia Mabrouk, je ne peux pas vous donner de date aujourd'hui, ce ne serait pas honnête de ma part, mais je peux vous promettre que quand la date qui nous permettra d'envisager sereinement la fin des gestes barrières, de nous retrouver, d'arrêter la distanciation sociale, d'enlever le masque sera arrivée, nous n'attendrons pas 24 heures.
Mais
nous le dirons immédiatement.
Bon. Ça risque d'être...
J'espère que ce sera cet été. J'espère sincèrement que ce sera cet été.
Mais voilà, une date.
Vous savez que je ne me suis jamais livré, même si ça peut paraître frustrant, je peux le comprendre, au jeu des prédictions. Parce que rien n'est pire que de dire aux Français quelque chose dont on n'est pas sûr que ça arrive. En tout cas, ce n'est pas ma façon de concevoir la politique.
Justement, vous parlez de politique. Une question un peu plus politique à présent. Renaud Muselier, qui a fait cet accord dès le premier tour avec La République En Marche, n'était pas évident à deviner, monsieur le ministre, une telle proximité quand on l'écoutait parler de vous, notamment. Et c'était il y a quelques semaines à votre place. Je vous propose de l'écouter.
Avec le ministre de la Santé, nous n'avons jamais aucune réponse. Ils ont l'arrogance et la prétention de savoir qu'ils ont raison.
Arrogance, prétention, dites donc, ce n'était pas une alliance très cohérente à l'entendre. Hein.
Une réponse en 2 temps, si vous me permettez, rapide sur la forme et le fond. Sur la forme, ce n'est pas un ancien député socialiste que je suis qui va vous apprendre qu'on peut ne pas s'entendre parfaitement sur le plan personnel et travailler ensemble. Et puis sur le fond, beaucoup plus important, c'est le dépassement qui continue. C'est le dépassement qui, en 2017, a vu un grand nombre d'élus de droite et de gauche appeler à voter pour Emmanuel Macron. C'est un dépassement qui se fait aujourd'hui par la droite dans une région donnée, et je souhaite qu'elle se fasse à gauche,
oui,
dans d'autres territoires.
Le dépassement, c'est l'effacement de la gauche. Et d'ailleurs,
c'est
celle que vous incarnez, vous, l'aile gauche, elle est où, monsieur le ministre ? Elle est inodore, incolore, inexistante.
Ce n'est absolument pas l'effacement, Sonia Mabrouk. La gauche que j'incarne au gouvernement, alors je ne personnalise pas, Enfin, excusez-moi, c'est ce gouvernement qui a fait le quoi qu'il en coûte. Il y a quoi comme mesure sociale plus forte que le quoi qu'il en coûte ? Qui consiste à prendre en charge les salaires de millions de Français qui ne peuvent pas travailler ? Qui consiste à prolonger la trêve hivernale jusqu'au cœur de l'été ? Qui consiste à mettre en même temps en place le plus grand plan d'investissement de 19 milliards d'euros pour nos hôpitaux ? D'augmenter les salaires de 9 milliards d'euros pour 1,5 million de soignants qui en avaient bien besoin, et pour 85% d'entre eux, des femmes, qui, dans le même mouvement, met en place le reste à charge zéro, qui fait qu'on ne paye plus pour ses lunettes, pour bien entendre, pour bien manger, qui fait le plus grand plan de soutien de toute l'histoire.
Si vous avez besoin de le dire, c'est que vous savez que beaucoup ne le perçoivent pas.
Non, ce que je veux vous dire par là, Sonia Mabrouk, c'est que la gauche, la social-démocratie, qui a vocation à ce que ces idées perdurent dans le débat politique, sa chance de les voir perdurer et d'être, entre guillemets, au pouvoir en 2022, c'est Emmanuel Macron. C'est pas dans une alliance avec la gauche LFiste qui n'a rien en commun avec la social-démocratie. Et ça, je peux vous dire que c'est un travail aussi de conviction que nous faisons, mais nous le faisons par le combat des idées et nous le faisons par les actions concrètes. Et notre bilan social, j'en suis très fier.
Et on comprend que vous allez peser aussi et sur le plan politique, monsieur le ministre de la Santé.
C'est pas une question de peser, c'est une question de faire, Sonia Mabrouk.
Eh bien, on verra tout ça à l'épreuve des faits. Merci Olivier Véran d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous.
Merci.
Ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Il est 8h28 sur Europe 1. À suivre un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Europe Matin. Le 7-9. Sébastien Krebs.
8h31, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Et c'est le premier rendez-vous de la journée au siège des Républicains. Un conseil stratégique débute en ce moment, avant ce soir une réunion de la commission d'investiture. Au menu, évidemment, l'alliance conclue par le sortant Renaud Muselier avec La République En Marche en vue des régionales en PACA. Alors, journée de tous les dangers ou pas, Mickaël Darmon ?
Ah, vous l'avez dit, journée stratégique ou journée tragique. On verra, parce qu'avec les Républicains, experts en psychodrame, il faut s'attendre à tout. Hein. Alors, au-delà des enjeux politiciens, eh bien, ce sont ce matin des amis de toujours hein, qui sont en train de s'embrouiller, qui vont se retrouver et essayer de limiter la casse. Christian Jacob, le patron du parti Renaud Muselier, effectivement, sont des amis unis par leur jeunesse autour de Jacques Chirac, qui leur a toujours dit il ne faut pas se rapprocher du Front National. On l'a vu et entendu hier, Renaud Muselier est déterminé, mais c'est un affectif. Il est touché par le fait d'être pointé ainsi par ses amis politiques. C'est pourquoi François Baroin, l'autre copain, eh bien, joue aussi les pacificateurs pour tenter d'éviter à Muselier l'exclusion demandée par certains plus durs comme Éric Ciotti qui veut lui effectivement le sortir du parti ainsi que Estrosi. Donc ce qui va se jouer au siège parisien de LR ce matin, c'est un peu la partie de carte de Pagnol mais en version western.
Voilà, exclusion ou pas, nouvelle liste ou pas face à Renaud Muselier, on aura peut-être ce soir ses réponses. Décryptage signé Mickaël Darmon, merci. Des réservations multipliées par 4 ces deux dernières semaines. Satisfaction il y a quelques minutes sur Europe 1 d'Olivier Véran quant à l'accélération de la campagne de vaccination. Le ministre de la Santé qui évoque une baisse de 20% des nouveaux cas ces derniers jours et qui dit espérer que les gestes barrières puissent être levés cet été, en tout cas si les niveaux de vaccination le permettent. L'été, justement, qui se prépare à Bruxelles. Les modalités d'un retour des touristes étrangers proposées hier par la Commission européenne. Les frontières pourraient s'ouvrir aux vaccinés ayant reçu 2 doses et aux personnes issues de pays peu touchés par le Covid. Une mesure qui permettrait peut-être aussi la réciprocité et donc les voyages des Européens dans des pays étrangers. En attendant de partir loin, certains profitent déjà en restant dans l'Hexagone. Illustration ce matin dans un camping des Pyrénées-Orientales à Argelès-sur-Mer, réouverture hier. Benjamin Péter s'y est rendu pour Europe 1.
Je vous assure, ça fait du bien, ça nous change la vie, c'est incroyable, incroyable, incroyable.
Sur sa terrasse, Patricia profite. Elle qui vient des Hauts-de-France est arrivée la première. Dès que la limite des 10 km a été levée, elle a voulu retrouver son mobil-home au camping du front de mer.
Bon, on pensait venir au mois d'avril, mais bon, avec le confinement, malheureusement, on a été tous coincés. Hein. Dès la réouverture, on est venus. J'ai pu décaler ma semaine de congé. C'est les vacances.
Sur près de 600 emplacements, seule une poignée sont déjà occupés, mais cette ouverture, même sans l'ensemble des prestations, c'est déjà un soulagement pour la propriétaire Joël Faye.
Ça fait chaud au cœur. Hein. On s'est levé, on était content de penser qu'on ouvrait.
Ces conditions particulières, c'est quoi ?
Le restaurant, bar, voilà, ça sera emporté. Pas de piscine, pas d'animation pour le moment, voilà.
De leur côté, Dominique et son équipe de femmes de ménage s'activent avec un protocole sanitaire très strict.
On met une bombe spéciale qu'on fait péter dans le mobil-home, comme on dit, pour tout désinfecter. Et après, on refait le mobil-home comme on fait d'habitude, pour que tout soit carré quand les gens vont affluer, on espère. Sinon, on est mal, hein, patron, on est mal, ouais. Hein.
Alors la piscine devrait rouvrir à partir du 19 mai, ce qui n'empêche pas les réservations pour le week-end de l'Ascension. Quant au mois d'été, ils sont déjà presque complets. Alors je laisse sur mer, Benjamin Péter, Europe 1.
À une semaine du début des examens de BTS en présentiel, des étudiants saisissent la Cour européenne des droits de l'homme. Ils réclament l'annulation des épreuves au profit du contrôle continu. Une enquête de l'IGPN ouverte contre deux policiers de la BAC de Marseille. Des investigations qui font suite à l'interpellation musclée d'un couple la semaine dernière. Il pèse 124 milliards de dollars. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a annoncé cette nuit son divorce, mais il l'assure, il continuera de travailler avec sa femme Melinda pour la fondation qui porte leur nom, fondation considérée comme la plus grande organisation philanthropique privée du monde. Et puis 21h ce soir, le PSG sur la pelouse de Manchester City. Il va falloir gagner par au moins 2 buts d'écart. Le PSG s'était incliné 2-1 à l'aller. Ce match à suivre ce soir sur Europe 1.
Oui, soirée spéciale hein, dès 20h. C'était Marion Calais. Pour l'info, tout de suite Laurent Cabrol à 8h35 et cette journée qui s'annonce bien pluvieuse. Hein.
Oui, et beaucoup d'entre vous, chers amis, disent « Ouf, il pleut ». Oui, bah, il pleut, ça fait plaisir, voilà qui fait plaisir à beaucoup d'entre vous, mais d'autres trouvent la journée un peu triste ou nette, effectivement. Alors, une partie de la France est sous la pluie où l'a été. Le littoral de la Manche va retrouver progressivement la fin des pluies, avec un peu de soleil peut-être. La vallée de la Loire, la région parisienne, la Champagne et la Lorraine ont actuellement un temps très humide. Ça va s'arranger aussi, mais très lentement également. Sur Paris, ce sera dans l'après-midi, peut-être un rayon de soleil. Poitou-Charentes, Massif Central, Bourgogne, Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes, là, ça va s'ennuager. C'est déjà le cas. Et puis, les premières gouttes arrivent. Et puis, enfin, l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le bassin méditerranéen. Là, vous aurez un ciel couvert, mais le temps sera plutôt sympa, puisqu'il ne pleuvra pas du tout. Il a plu la semaine dernière. Les températures maximales entre 13 et 21 degrés. 13 degrés du côté de Nancy, 15 à Cabourg et Bayonne, comme au Touquet, 17 degrés à Paris cet après-midi, 19 à Mâcon, 20 à Marseille, 21 à Toulouse et Lyon. Et demain, ce sera, disons, un temps un peu plus agréable. Allez, il y aura moins de pluie.
Merci Laurent Cabrol, 8h36.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs. Notre santé est présentée par Atoll. Si vous êtes né avant 1981, prenez rendez-vous et allez faire tester gratuitement votre vue chez votre opticien Atoll.
Notre rendez-vous santé du matin avec Jimmy Mohamed. Bonjour docteur.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Le processus de déconfinement a donc débuté. On parlait tout à l'heure du retour de la culture des spectacles. Alors justement, vous nous conseillez d'en profiter pour surtout lâcher un peu nos écrans.
Exactement, car on le sait, durant cette période assez particulière, le temps d'écran a considérablement augmenté, mais pour des raisons justifiées, télétravail, loisirs ou même liens sociaux, eh bien, on avait besoin de notre téléphone, des réseaux sociaux ou même de Netflix, sauf qu'il va falloir réapprendre à s'en passer. Je vous propose de troquer ce satané confinement lié au coronavirus contre un confinement numérique. L'objectif est simple, se déconnecter de nos écrans pour tout simplement se reconnecter à nos vies.
Un confinement numérique, ça veut dire quoi? On coupe tous les écrans, je sais pas, à partir d'une certaine heure?
Exactement, fixer une heure à partir de laquelle on arrête tous les écrans en famille. Et évidemment, cette heure peut varier en fonction du contexte. Alors, le plus tôt possible, si vous avez des enfants, c'est le mieux. Et au minimum, une heure avant le coucher. Et si jamais c'est vraiment trop difficile pour vous, choisissez des périodes clés où les téléphones doivent être interdits pour tous. Comme par exemple, un moment où il est important de se retrouver, comme le dîner du soir. Eh bien, sachez notamment que votre cerveau n'est pas fait pour réaliser deux tâches complexes à la fois. Il ne viendrait pas à l'idée, Sébastien, par exemple, de vous raser la barbe en bricolant. Eh bien, c'est exactement la même chose avec votre téléphone. Le cerveau, en fait, est incapable d'exécuter avec efficacité des tâches qui demandent chacune de l'attention et du contrôle. Comme par exemple, regarder une vidéo et apprendre une leçon. Proposez donc aux enfants, par exemple, de couper leur téléphone lorsqu'ils font leurs devoirs ou au minimum de désactiver les notifications, car sans vous en rendre compte, toutes ces sollicitations, comme des SMS, des likes ou des smileys, eh bien, vont finir par les épuiser.
Ouais. Il va falloir donc réapprendre à se déconnecter. Comment on fait très concrètement ?
Bah, ça passe par des exercices tout simples du quotidien qui vont finalement vous permettre de réapprendre certaines aptitudes que les téléphones ont remplacées peu à peu. Essayez par exemple de vous souvenir des numéros de téléphone de vos proches, de retenir les dates d'anniversaire de vos amis ou même de vous réapproprier le calcul mental pour de simples opérations. Et puis n'oubliez pas que nous nourrissons notre cerveau avec de trop nombreux likes, des SMS, qui finalement vont activer dans notre cerveau des centres de la récompense et du plaisir. Un peu comme si vous mangiez un carré de chocolat. Et bien finalement vous pouvez comprendre que l'addiction va finalement finalement très vite s'installer. On doit donc nourrir notre cerveau avec autre chose, comme du sport, de la musique, de la danse, de la lecture, de la culture, bref, tout ce que le déconfinement va nous apporter très prochainement une fois vaccinés. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous recommande le super livre du docteur Serge Tisseron, pardon. Ça s'appelle « Les écrans et moi » aux éditions IG.
Voilà, on coupe les écrans et on passe plus de temps dehors. En plus, ça correspond à la saison. Rassurez-nous, Jimmy, on a le droit à la radio quand même.
La radio, ça marche très bien. On peut faire plein de choses en écoutant la radio.
Dans son rendez-vous tout à l'heure à 15h, on parle d'un fléau, les ronflements. Vous recevez un
oui,
ORL.
On a pensé à vous, justement, Sébastien, les ronflements. Et vous allez voir que ce n'est pas synonyme d'un sommeil de bonne qualité.
Non, je ne ronfle pas. D'ailleurs, je ne dors pas. Enfin, plus beaucoup. Merci à vous, Jimmy Mohamed. À demain. On va regarder vers notre planète à présent. Bonjour, Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Des solutions positives avec vous chaque matin, des initiatives qui changent les choses. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un bateau un peu spécial, sans équipage, sans capitaine. Et ce bateau s'apprête à traverser l'océan Atlantique.
Oui, il s'appelle le Mayflower 400, en hommage au bateau originel qui a bravé l'Atlantique il y a 400 ans pour rallier l'Amérique. Son descendant est un bateau absolument futuriste. Le tout premier bateau intelligent capable de se déplacer et de prendre tout un tas de décisions tout seul. Tout comme son ancêtre d'il y a 400 ans, ce trimaran traversera l'Atlantique de Plymouth au Royaume-Uni à Plymouth dans le Massachusetts états-unien. Sauf que cette traversée se fera sans personne à bord. Alors le but, d'envoyer un bateau sans passagers et de pouvoir explorer l'océan sans contrainte de ravitaillement de nourriture, et cela 24 heures sur 24, ce bateau va sans aucune aide analyser la faune, les composants de l'eau, le taux de plastique ou encore enregistrer les mammifères marins à l'aide d'hydrophones.
Comment ça marche, Fanny ? Comment ce bateau a pu être rendu comme ça autonome ?
Alors, le capitaine, c'est tout simplement une intelligence artificielle capable d'identifier des obstacles maritimes et éviter les collisions. Ce bateau a même été envoyé en mer pour un apprentissage supervisé pendant lequel on lui disait ce qui était une bonne ou une mauvaise action ou encore une action dangereuse. Pas d'humain à bord donc, mais tout de même trois informaticiens qui contrôlent à distance ses équipements et une ingénieure qui vérifie les moteurs qui tournent à l'énergie solaire.
Et les informations collectées vont servir à quoi ?
Alors, des centaines d'intervenants, il faut le savoir, qui viennent de pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou l'Inde, se sont penchés sur le projet pour lui faire voir le jour rapidement pour qu'il récolte le maximum d'informations. L'océan, c'est vraiment la force la plus puissante de la planète qui régule notre climat. Mais 80% de ces océans restent inexplorés du fait de la dangerosité et de son immensité. Ce bateau, c'est un peu comme la première station maritime internationale, car le Mayflower 400 va se comporter comme les robots envoyés dans l'espace. Il va conduire un travail d'analyse méthodique qui semble anodin comme ça, mais qui va nous en dire beaucoup plus sur la distribution des populations des animaux marins et de la composition de l'eau. Alors à vos comptes Twitter pour suivre en direct sur le compte dédié les aventures du Mayflower 400. Son grand départ sera aux alentours du 15 mai. C'est tout bientôt.
Le Mayflower 400, donc complètement autonome. Merci à vous Fanny Agostini, des solutions pour l'environnement chaque matin avec vous. À demain, 8h42. Il s'installe avec Julie Nicolas Canteloup à suivre pour la revue de presque.
Comme Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Il est 9h moins le quart et c'est l'heure de retrouver Nicolas Canteloup pour la revue de presque avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va retrouver tout de suite. Mais attendez, je crois que Mathieu Béliard est passé ce matin.
Oui.
Il a tenu à faire les titres de l'actualité, ben évidemment.
Mais bien sûr, je lâche rien, Julie. Bonjour Julie. Bonjour Sébastien. J'écoute Bonjour. Seb. C'est bien. Tu vas pouvoir bientôt mettre ton permis bateau de capitaine de matinale, le Mayflower, quelque part. Europe 1, vous l'avez remarqué, chers auditeurs, rajeuni entre Sébastien Krebs et moi, c'est les Kids United de l'info. Allez, ouais, Sébastien. Ouais. Tu sais quoi, je te montrerai comment on fait les titres. Allez. C'est parti. 3, 4.
Le son de
Bienvenue. Radio. Bienvenue sur Europe 1. Regarde le monde changer. Prends le mardi de congé. Voilà. Regarde le monde prendre le mardi de congé, surtout. Voilà. L'info du jour, c'est l'alliance entre Renaud Muselier, on en reparle encore, et la majorité qui crée des remous dans l'aile gauche de la REM, la République En Marche. Et oui, ça, c'est une info. Il y a une aile gauche chez LREM. C'est une aile atrophiée qui s'est plus trop volée, mais c'est une aile quand même. Oui, c'est cette aile-là. On en fait pas une chicken wings chez KFC, vous voyez, des ailes comme ça quand même. Il n'y a rien à bouffer dedans. Oui, parce que Sébastien, tu vas comprendre, j'aime bien les métaphores culinaires. Voilà.
Je sais un peu.
Allez, l'autre. Oh là, comme il m'a taclé là, Sébastien. L'autre info, c'est le procès de Nordal Lelandais. Nordal Lelandais qui est arrivé, vous l'avez remarqué, en portant bien son masque. Et oui, il pense à la santé des autres, Nordal Lelandais. Il a choisi de préserver les vies autour de lui, c'est sympa. Tu parles d'un tueur en série, franchement, petite bite. Allez, la dernière info. C'est Bill Gates. C'est Bill Gates, c'est pas culinaire. La dernière info, c'est Bill et Melinda Gates qui annoncent leur divorce après 27 ans de mariage. Les pauvres, franchement. Non, c'est vrai, on compatit, c'est vrai. Bon, c'est vrai, une pension alimentaire équivalente au PIB de la Suisse, ça aide à encaisser. Mais quand même, on pense à eux. Bon alors, Seb, franchement, regarde-moi dans les yeux. T'as vu qui était le boss? Un jour, je te laisse faire.
J'ai pris des notes.
Merci Mathieu, à demain. Marine Le Pen nous a rejoint maintenant. Elle a lancé sa campagne présidentielle, vous le savez, ce 1er mai. Une campagne qui cible surtout les jeunes. Bonjour Marine Le Pen.
Oui, bonjour madame.
Oh là là.
Oui, écoutez, j'attends depuis 24 heures mon passage à l'antenne, madame.
Ah bah oui, hier, ça devait être hier, on n'a pas eu le temps.
Fait. Voilà, bon. J'ai passé la nuit, du coup, dans les couloirs d'Europe 1. Et qu'est-ce que je constate? Que monsieur Béliard n'est même pas là, mon beau métis. C'est inadmissible, madame. Qu'est-ce que vous disiez?
Que vous Krebs étiez
pas mal non plus, mais tout de même.
Je disais que vous étiez l'idole des jeunes, carrément.
Ah oui, pardon, oui, pardon. 3-4. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui vote pour moi. Oui, bonjour, Madame Leclerc. Bonjour, Monsieur Cabrol. Bonjour, Docteur Billy Zidane. Et bonjour à toi, Monsieur Krebs.
Bonjour.
Les jolis garçons, tout de même, celui-ci, même si c'est vrai que je préfère. Mon joli métis. Eh oui, je séduis les jeunes. Vous l'avez dit, Madame Leclerc, les jeunes adhèrent à mon flot.
Alors, justement, plusieurs sondages ont révélé que votre parti était le favori des 25-34 ans. Allez, donc.
Oui, oh, vous me kiffez, les gens. Voilà, les royasses. Vous comptez sur moi pour mettre à l'amende ce gouvernement de Narvalo. Tête comme mon valet Ken en 2-2. Comme sur Fortnite, wesh ma gueule.
Ouais, ben n'en faites pas trop non plus, hein, Marine Le Pen.
Ok, boomer, reste dans ton monde. Oh. Mais moi, avec mes cousines et mes cousins, on va redresser la France en dégageant cette grosse chouin d'Emmanuel Macron et toute sa clique de vieux fragiles. Abdullah. Ah, il est loin, le temps des jeunes en casquette Gavroche qui chantaient que la jeunesse emmerde le Front National. Aujourd'hui, la jeunesse lit Éric Zemmour et Valeurs Actuelles. Elle met sa chemise dans son pantalon. Elle aime la discipline. Jeanne d'Arc et les généraux Pucci. Voilà, madame.
Alors, parmi les mesures envers les jeunes, vous avez proposé que tout jeune de moins de 30 ans qui crée son entreprise puisse bénéficier d'une dotation en fonds propres égale à ses propres apports.
Voilà, voilà, tout à fait. Bien chaque rigolo. Jeune qui vote pour moi aura de la grosse moula pour démarrer son entreprise. De la bonne grosse moula gras. Voilà. Car la France est en total déclin économique. Et qui dirige nos entreprises? Qui se font bolosser par les multinationales étrangères? Des yeuves, madame Leclerc. Des yeuves, que des yeuves. Il est temps que les jeunes prennent le pouvoir, madame.
Oui. Oh non.
Donne-moi
allez,
la
merci
moulaga.
Marine Le Pen. La droite n'a jamais été aussi mal en point. Et pour en parler, on va recevoir Édouard Philippe. Bonjour, monsieur Philippe.
Oui, bonjour, madame Julie, monsieur Crêpe. Krebs, pardon. Krebs, pardon.
Oui,
excuse-moi.
Oui,
prendre de sport, peut-être. Je ne sais pas. Ce bordel à droite, franchement, Castex a créé autant le bordel à droite que dans les hôpitaux. Je crois que c'est un créateur de bordel hors pair, ce Castex. Vous savez qui il me fait penser?
Bah non.
Ben mes enfants. Hein? Quand j'ai laissé une heure dans une pièce avec des jouets, il y avait un bordel. Ben Castex, c'est pareil, mais avec des partis politiques, c'est pas avec des Legos.
Bon, c'est sûr que là, à droite, ils sont mal. Hein. On a l'impression qu'Éric Ciotti est devenu leur leader. Les frontières avec le Rassemblement National semblent plutôt minces.
Mmh. Ah ben c'est sûr que c'est pas rassurant pour 2022. Mais vous savez, quand sur le fond, ça pêche un peu, il faut se raccrocher à la forme. Hein. Il faut se recentrer autour d'une figure forte, d'un leader charismatique.
Oui, mais qui?
Charismatique. Christian Jacob. Non, je déconne. Non, il faut un gars. Non.
Sérieusement,
il faut un gars populaire, sympa, mais sérieux, quelqu'un qui, voilà, qui a une colonne vertébrale, plébiscité par les Français de surcroît dans les sondages.
Oui, je crois qu'on a compris. Alors, attendez, je vous interromps une seconde, mais le président souhaite intervenir.
Oh putain, mais un gars populaire, sympa, plébiscité par les Français dans les sondages. Mais tu y penses encore, Édouard? Tu y penses encore? Non, je pensais, cher Emmanuel, je pensais à Omar Sy. Hein, il a plus de chances de faire un bon score que Xavier Bertrand ou Éric Ciotti, Omar Sy.
Non, mais il ment même, dites-le, vous sentez qu'il ment. Je suis sûr qu'il va y aller, le salopard. Il est comme sa barbe, ni tout noir, ni tout blanc. C'est un fourbe, Mme Leclerc. Monsieur Krebs, ouvrez les yeux, c'est un fourbe.
Ouh, mais qu'est-ce qu'il y a? Il est tendu, notre président, ce matin. Bon, on va vous laisser, hein. Bonne journée quand même.
Oh, putain.
Allez. Autre chose, la fête de la bière est annulée en Allemagne pour la deuxième année consécutive. Bonjour Angela Merkel.
Ah, comme c'est dommage. Ah, décidément, le coronavirus aura annulé tous les trucs marins. Le sommet du G7, le salon de la comptabilité à Fischbaden, les sessions du Parlement européen de Strasbourg, et maintenant la fête de la bière. Ah, car vous savez, en Allemagne, après avoir fait du contrôle de gestion, on aime s'enfiler un tonneau de Heineken.
Oh non, c'est pas
vrai. Mais bon, il faut être raisonnable.
Vous pensez que c'est la meilleure solution?
Ah! Ça fait oublier. Je parle à des Français aussi. Ah, les seuls en Europe à rouvrir les terrasses à 30 000 cas par jour. L'épidémie est encore à thermostat 9. Vos hôpitaux sont pleins. Les variants indiens sont sur votre territoire et vous vaccinez à une allure de tortue. Mais l'urgence, c'est de retourner vous bourrer la gueule.
Oh là là.
Oh, vous me ferez toujours rigoler. Je m'en tape la cellulite. Ah, regarde Capron, ça fait des vaguelettes.
Oh non, pitié, pas les détails.
C'est la peau d'orange.
Oh non, arrêtez, pitié. On vous laisse Angela Merkel. Allez,
ah, hop. C'est une tsunami.
Oui, c'est bon, ça ira. Hop. Retour à Paris, tiens, où les tensions sont à leur comble entre les riverains de la place Stalingrad et les trafiquants de drogue locaux. Ce week-end, les habitants ont tiré à coups de mortier de feux d'artifice sur les consommateurs de crack. La maire de Paris est avec nous. Bonjour Anne Hidalgo.
Oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Krebs, et bonjour à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. Écoutez, voilà, Paris, enfin, redevient Paris. De la drogue, des feux d'artifice, c'est la fête. On se croirait dans une soirée au VIP Room du temps où il existait encore. C'est le retour, je vous l'annonce, du Gay Paris.
Le Gay Paris, tu parles, hein, ça fait des années que ça dure, le problème de la drogue, place Stalingrad, hein.
Oui, mais en même temps, Mme Julie, quand on voit l'état de Paris en ce moment avec les travaux, les bouchons, les rats, les pigeons et les détritus, pour supporter ça, c'est un petit peu normal qu'on ait envie de se droguer.
Ouais, bof. Le maire du 19e arrondissement, François Dagneau, déplore même que des toxicomanes viennent de toute l'Europe.
Et voilà, c'est le rayonnement parisien. On vient de loin pour se défoncer, on va à Paris. C'est reconnaître un art de vivre, un véritable art de vivre, oui, à la française. Moi-même, je m'y connais en défonce. J'ai défoncé la moitié de la ville à la pelleteuse. Trottoir ainsi que macadam.
Oui, c'est bon. On s'en est aperçu, oui.
C'est vrai, monsieur Carroll.
Ah oui, défoncé complètement.
Il compare avec Mazamé ou quoi? Merci Anne Hidalgo, à bientôt.
Nous en prie.
Et puis bien sûr, ce soir, c'est le match retour de Ligue des Champions, Manchester City PSG. Bonjour Kylian Mbappé.
Oui, bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Krebs.
Alors, on a pu lire dans la presse cette déclaration de Neymar. Je suis en première ligne et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l'équipe. Je ramènerai cette qualification, même s'il faut mourir sur le terrain.
Oui, alors je ne sais pas si mon camarade Neymar va mourir sur le terrain, mais il va au moins se blesser sur le terrain, ça c'est sûr, ça arrive à chaque fois.
Dites donc, ça vous va bien de dire ça, vous êtes pas très en forme en ce moment, hein. Vous n'avez même pas joué le dernier match contre Lens, et vous avez raté les deux derniers entraînements.
C'est pas faux, c'est une bonne analyse, mais oui, mais je me suis dit, Mme Julie, je me suis dit, au fait, pourquoi je joue tous les matchs, alors que je suis moins payé que Neymar qui joue 4 mois par an seulement. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si vous, Monsieur Krebs, vous appreniez que Julie, qui bosse seulement 10 minutes par jour, était plus payée que vous. Merde, j'espère que j'ai pas fait une boulette, si ça se trouve, c'est le cas.
Oh, la boulette.
Non, il y a marqué « je confirme » dans le texte.
J'avais pas le texte.
J'ai changé la chute.
Nicolas Cantelou, la revue de presse, chaque matin sur Europe 1. Il est 8h56. Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Sébastien.
Quel est le programme de Culture Média?
Alors, notre info média du jour a parlé d'un docu-fiction consacré à la résistance, réalisé de manière très originale à travers des portraits. Vous allez entendre Jean Moulin qui parle face caméra. Évidemment, c'est pas lui, mais c'est exactement son texte. Le tout raconté par l'auteur-compositeur Gaël Faye. Nous serons avec sa réalisatrice, c'est Caroline Benaroche. Ce soir démarre le meilleur pâtissier version pro. C'est Julia Vignali qui présente. Elle est sur M6, mais elle est déjà annoncée sur la 2 l'année prochaine dans Télématin. Il y a un nouveau venu dans le jury, c'est Jean-François Piège, vous savez quoi, il sera également avec nous dans ce studio. Et puis Nicolas Pagnol, c'est le petit-fils de l'écrivain Marcel Pagnol. Il édite une BD, ça s'appelle La prière aux étoiles. C'était un film qui a été tourné par Marcel Pagnol, film qu'il a entièrement détruit pour qu'il échappe aux Allemands et aux nazis qui voulaient en faire le patron du cinéma français en 42. Il a refusé, il a tout détruit.
Culture Média à suivre juste après le journal de 9h. Je vous souhaite une belle journée. À demain en direct dès 5h pour se réveiller ensemble. Mathieu Belliard, bien sûr, de retour à 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.